Pauline, chapitre 4. Parmi les jeunes gens qui se posaient en adorateurs de Laurence, il y avait un certain Mongenet, qui faisait des vers et de la prose pour son plaisir, mais qui, soit modestie, soit dédain, ne s'avouait point homme de lettres. Il avait de l'esprit, beaucoup d'usage du monde, quelque instruction et une sorte de talent. Fils d'un banquier, il avait hérité d'une fortune considérable et ne songeait point à l'augmenter, mais ne se mettait guère en peine d'en faire un usage plus noble que d'acheter des chevaux, d'avoir des loges au théâtre, de bons dîners chez lui, de beaux meubles, des tableaux et des dettes. Quoique ce ne fût ni un grand esprit ni un grand cœur, il faut dire à son excuse qu'il était beaucoup moins frivole et moins ignare que ne le sont pour la plupart les jeunes gens riches de ce temps-ci. C'était un homme sans principe, mais par convenance ennemi du scandale. Passablement corrompu, mais élégant dans ses mœurs, toutes mauvaises qu'elles fussent, capable de faire le mal par occasion et non par goût, sceptique par éducation, par habitude et par ton, porté au vice du monde par manque de bons principes et de bons exemples, plus que par nature et par choix. Du reste, critique intelligent, écrivain pur, causeur agréable, connaisseur et dilettante dans toutes les branches des beaux-arts, protecteur avec grâce, sachant et faisant un peu de tout, voyant la meilleure compagnie sans ostentation et fréquentant la mauvaise sans effronterie. Consacrant une grande partie de sa fortune non à secourir les artistes malheureux, mais à recevoir avec luxe les célébrités. Il était bienvenu partout, et partout il était parfaitement convenable. Il passait pour un grand homme auprès des ignorants et pour un homme éclairé chez les gens ordinaires. Les personnes d'un esprit élevé estimaient sa conversation par comparaison avec celle des autres riches, et les orgueilleux la toléraient parce qu'ils savaient les flatter en les raillant. Enfin, ce Mongenet était précisément ce que les gens du monde appellent un homme d'esprit, les artistes un homme de goût. Pauvre, il eût été confondu dans la foule des intelligents vulgaires. Riche, on devait lui savoir gré de n'être ni un juif, ni un sot, ni un maniaque. Il était de ces gens qu'on rencontre partout, que tout le monde connaît au moins de vue, et qui connaissent chacun par son nom. Il n'était point de société où il ne fût admis, point de théâtre où il n'eût ses entrées dans les coulisses et dans le foyer des acteurs, point d'entreprise où il n'eût quelques capitaux, point d'administration où il n'eût quelque influence, point de cercle dont il ne fût un des fondateurs et un des soutiens. Ce n'était pas le dandysme qui lui avait servi de clé pour pénétrer ainsi à travers le monde. C'était un certain savoir-faire, plein d'égoïsme, exempt de passion, mêlé de vanité et soutenu d'assez d'esprit pour faire paraître son rôle plus généreux, plus intelligent et plus épris de l'art qu'il ne l'était en effet. Sa position l'avait, depuis quelques années déjà, mis en rapport avec Laurence. Mais ce furent d'abord des rapports éloignés, de pure politesse. Et si Mongenet y avait mis parfois de la galanterie, c'était dans la mesure la plus parfaite et la plus convenable. Laurence s'était un peu méfié de lui d'abord, sachant fort bien qu'il n'est point de société plus funeste à la réputation d'une jeune actrice que celle de certains hommes du monde. Mais quand elle vit que Mongenet ne lui faisait pas la cour, qu'il venait chez elle assez souvent pour manifester quelques prétentions, et qu'il n'en manifestait cependant aucune, elle lui sut gré de cette manière d'être, la prit pour un témoignage d'estime de très bon goût, et craignant de se montrer prude ou coquette en se tenant sur ses regards, elle le laissa pénétrer dans son intimité, en reçut avec confiance mille petits services insignifiants qu'il lui rendit avec un empressement respectueux, et ne craignit pas de le nommer parmi ses amis véritables, lui faisant un grand mérite d'être beau, riche, jeune, influent, et de n'avoir aucune fatuité. La conduite extérieure de Mongenet autorisait cette confiance. Chose étrange cependant, cette confiance le blessait en même temps qu'elle le flattait. Soit qu'on le prît pour l'amant ou pour l'ami de Laurence, son amour-propre était caressé. Mais lorsqu'il se disait qu'elle le traitait en réalité comme un homme sans conséquence, il en éprouvait un secret dépit et lui passait par l'esprit de s'en venger quelques jours. Le fait est qu'il n'était point épris d'elle, du moins depuis 3 ans qu'il la voyait de plus en plus intimement. Le calme apathique de son cœur n'en avait reçu aucune atteinte. Il était de ces hommes déjà blasés par de secrets désordres qui ne peuvent plus éprouver de désirs violents que ceux où la vanité est en cause. Lorsqu'il avait connu Laurence, sa réputation et son talent étaient en marche ascendante, mais ni l'un ni l'autre n'étaient assez constatés pour qu'il attachât un grand prix à sa conquête. D'ailleurs, il avait bien assez d'esprit pour savoir que les avantages du monde n'assurent point aujourd'hui de succès infaillible. Il apprit et il vit que Laurence avait une âme trop élevée pour céder jamais à d'autres entraînements que ceux du cœur. Il sut en outre que, trop insouciante peut-être de l'opinion publique, alors que son âme était envahie par un sentiment généreux, elle redoutait néanmoins et repoussait l'imputation d'être protégée et assistée par un amant. Il s'enquit de son passé, de sa vie intime. Il s'assura que tout autre cadeau que celui d'un bouquet serait repoussé d'elle comme un sanglant affront. Et en même temps que ces découvertes lui donnèrent de l'estime pour Laurence, elles éveillèrent en lui la pensée de vaincre cette fierté, parce que cela était difficile et aurait dû retentissement. C'était donc dans ce but qu'il s'était glissé dans son intimité, mais avec adresse, et pensant bien que le premier point était de lui ôter toute crainte sur ses intentions. Pendant ces 3 ans, le temps avait marché et l'occasion de risquer une tentative ne s'était pas présentée. Le talent de Laurence était devenu incontestable, sa célébrité avait grandi, son existence était assurée, et ce qu'il y avait de plus remarquable, son cœur ne s'était point donné. Elle vivait repliée sur elle-même, ferme, calme, triste parfois, mais résolue à ne plus se risquer à la légère sur l'aile des orages. Peut-être ses réflexions l'avaient-elles rendue plus difficile, peut-être ne trouvait-elle aucun homme digne de son choix. Était-ce dédain? Était-ce courage? Mongenet se le demandait avec anxiété. Quelques-uns se persuadaient qu'il était aimé, en secret, et lui demandaient compte, à lui, de son indifférence apparente. Trop adroit pour se laisser pénétrer, Mongenet répondait que le respect enchaînerait toujours en lui la pensée d'être autre chose pour Laurence qu'un ami et un frère. On redisait ces paroles à Laurence, et on lui demandait si sa fierté ne dispenserait jamais ce pauvre Mongenet d'une déclaration qu'il n'aurait jamais l'audace de lui faire. « Je le crois modeste, » répondit-elle, « mais pas au point de ne pas savoir dire qu'il l'aime, si jamais il vint à aimer. » Cette réponse revenait à Mongenet, et il ne savait s'il devait la prendre pour la raillerie du dépit ou pour la douceur de l'indifférence. Sa vanité en était parfois si tourmentée qu'il était prêt à tout risquer pour le savoir, mais la crainte de tout gâter et de tout perdre le retenait, et le temps s'écoulait sans qu'il vît jour à sortir de ce cercle vicieux où chaque semaine le transportait d'une phase d'espoir à une phase de découragement et d'une résolution d'hypocrisie à une résolution d'impertinence, sans qu'il fût jamais possible de trouver l'heure convenable pour une déclaration qui ne fût pas insensée ou pour une retraite qui ne fût pas ridicule. Ce qu'il craignait le plus au monde, c'était de prêter à rire, lui qui mettait son amour-propre à jouer un personnage sérieux. La présence de Pauline lui vint en aide, et la beauté de cette jeune fille sans expérience lui suggéra de nouveaux plans sans rien changer à son but. Il imagina de se conformer à une tactique bien vulgaire, mais qui manque rarement son effet, tant les femmes sont accessibles à une sotte vanité. Il pensa qu'en feignant une velléité d'amour pour Pauline, il éveillerait chez son ami le désir de la supplanter. Absent de Paris depuis plusieurs mois, il fit sa rentrée dans le salon de Laurence un certain soir où Pauline, étonnée, effarouchée de voir le cercle habituel s'agrandir d'heure en heure, commençait à souffrir du peu d'ampleur de sa robe noire et de la laideur de sa collerette. Dans ce cercle, elle remarquait plusieurs actrices, toutes jolies, ou du moins attrayantes à force d'art. Puis, en se comparant à elle, en se comparant à Laurence même, elle se disait avec raison que sa beauté était plus régulière, plus irréprochable, et qu'un peu de toilette suffirait pour l'établir devant tous les yeux. En passant et repassant dans le salon selon sa coutume pour préparer le thé, veiller à la clarté des lampes et vaquer à tous ces petits soins qu'elle avait assumés volontairement sur elle, son mélancolique regard plongé dans les glaces et son petit costume de demi-béguine commençaient à la choquer. Dans un de ces moments-là, elle rencontra précisément dans la glace le regard de Mongenet qui observait tous ses mouvements. Elle ne l'avait pas entendu annoncer. Elle l'avait rencontré dans l'antichambre sans le voir lorsqu'il était arrivé. C'était le premier homme, d'une belle figure et d'une véritable élégance, qu'elle eût encore pu remarquer. Elle en fut frappée d'une sorte de terreur. Elle reporta ses yeux sur elle-même avec inquiétude, trouva sa robe flétrie, ses mains rouges, ses souliers épais, sa démarche gauche. Elle eût voulu se cacher pour échapper à ce regard qui la suivait toujours, qui observait son trouble, et qui était assez pénétrant dans les sentiments d'une donnée vulgaire pour comprendre d'emblée ce qui se passait en elle. Quelques instants après, elle remarqua que Mongenet parlait d'elle à Laurence, car tout en s'entretenant à voix basse, leurs regards se portaient sur elle. « Est-ce une première camériste ou une demoiselle de compagnie que vous avez là ?» demanda Mongenet à Laurence, quoiqu'il sût fort bien le roman de Pauline. « Ni l'une ni l'autre, » répondit Laurence. « C'est mon amie de province, dont je vous ai souvent parlé. Comment vous plaît-elle » Mongenet affecta de ne pas répondre d'abord, de regarder fixement Pauline. Puis il dit d'un ton étrange que Laurence ne lui connaissait pas, car c'était une intonation mise en réserve depuis longtemps pour faire son effet dans l'occasion. « Admirablement belle, délicieusement jolie. »« En vérité !» s'écria Laurence, toute surprise de ce mouvement. « Vous me rendez bien heureuse de me dire cela. Venez que je vous présente à elle. » Et sans attendre sa réponse, elle le prit par le bras et l'entraîna jusqu'au bout du salon où Pauline essayait de se faire une contenance en rangeant son métier de broderie. « Permets-moi, ma chère enfant, lui dit Laurence, de te présenter un de mes amis que tu ne connais pas encore et qui depuis longtemps désire beaucoup te connaître. » Puis, ayant nommé Mongenet à Pauline, qui dans son trouble n'entendit rien, elle adressa la parole à un de ses camarades qui entrait, et changeant de groupe, elle laissa Mongenet et Pauline face à face, pour ainsi dire tête à tête, dans le coin du salon. Jamais Pauline n'avait parlé à un homme aussi bien frisé, cravaté, chaussé et parfumé. Hélas, on n'imagine pas quel prestige ces minuties de la vie élégante exercent sur l'imagination d'une fille de province. Une main blanche, un diamant à la chemise, un soulier verni, une fleur à la boutonnière, sont des recherches qui ne brillent plus en quelque sorte dans un salon que par leur absence. Mais qu'un commis voyageur étale ses séductions inouïes dans une petite ville, et tous les regards seront attachés sur lui. Je ne veux pas dire que tous les cœurs voleront au-devant du sien, mais du moins je pense qu'il serait bien sot s'il n'en accapare pas quelques-uns. Cet engouement puéril ne dura qu'un instant chez Pauline. Intelligente et fière, elle eut bientôt secoué ce reste de provincialité. Mais elle ne put se défendre de trouver une grande distinction et un grand charme dans les paroles que Mongenet lui adressa. Elle avait rougi d'être troublée par le seul extérieur d'un homme. Elle se réconcilia avec sa première impression en croyant trouver dans l'esprit de cet homme le même cachet d'élégance dont toute sa personne portait l'empreinte. Puis cette attention particulière qu'il lui accordait, le soin qu'il semblait avoir pris de se faire présenter à elle, retiré dans un coin parmi les tasses de chine et les vases de fleurs, le plaisir timide qu'il paraissait goûter à la questionner sur ses goûts, sur ses impressions et ses sympathies, la traitant de prime abord comme une personne éclairée, capable de tout comprendre et de tout juger, toutes ces coquetteries de la politesse du monde dont Pauline ne connaissait pas la banalité et la perfidie, la réveillèrent de sa langueur habituelle. Elle s'excusa un instant sur son ignorance de toute chose. Mongenet parut prendre cette timidité pour une admirable modestie ou pour une méfiance dont il se plaignait d'une façon cafarde. Peu à peu, Pauline s'enhardit jusqu'à vouloir montrer qu'elle aussi avait de l'esprit, du goût, de l'instruction. Le fait est qu'elle en avait extraordinairement eu égard à son existence passée, mais qu'au milieu de tous ces artistes brisés à une causerie étincelante, elle ne pouvait éviter de tomber parfois dans le lieu commun. Quoique sa nature distinguée la préservât de toute expression triviale, il était facile de voir que son esprit n'était pas encore sorti tout à fait de l'état de chrysalide. Un homme supérieur à Mongenet n'en eût été que plus intéressé à ce développement, mais le vaniteux en conçut un secret mépris pour l'intelligence de Pauline, et il décida avec lui-même, dès cet instant, qu'elle ne lui servirait jamais que de jouet, de moyen, de victime s'il le fallait. qui eût pu supposer dans un homme froid et nonchalant en apparence une résolution si sèche et si cruelle? Personne à coup sûr. Laurence, malgré tout son jugement, ne pouvait le soupçonner, et Pauline, moins que personne, ne devait en concevoir l'idée. Lorsque Laurence se rapprocha d'elle, se souvenant avec sollicitude qu'elle l'avait laissée auprès de Mongenet troublée jusqu'à la fièvre, confuse jusqu'à l'angoisse, elle fut fort surprise de la retrouver brillante, enjouée, animée d'une beauté connue et presque aussi à l'aise que si elle eût passé sa vie dans le monde. « Regarde donc ton ami de province, » lui dit à l'oreille un vieux comédien de ses amis. « N'est-ce pas merveille de voir comment en un instant l'esprit vient aux filles ?» Laurence fit peu d'attention à cette plaisanterie. Elle ne remarqua pas non plus le lendemain que Mongenet était venu lui rendre visite une heure trop tôt, car il savait fort bien que Laurence sortait de la répétition à 4 heures. Et depuis 3 jusqu'à 4 heures, il l'avait attendue au salon, non pas seule, mais penchée sur le métier de Pauline. Au grand jour, Pauline l'avait trouvé fort vieux. Quoiqu'il n'eût que 30 ans, son visage portait la flétrissure de quelques excès. L'on sait que la beauté est inséparable dans les idées de province, de la fraîcheur et de la santé. Pauline ne comprenait pas encore, et ceci faisait son éloge, que les traces de la débauche pussent imprimer au front une apparence de poésie et de grandeur. Combien d'hommes dans notre époque de romantisme ont été réputés penseurs et poètes rien que pour avoir l'orbite creusée et le front dévasté avant l'âge. Combien ont paru hommes de génie qui n'étaient que malades. Mais le charme des paroles captiva Pauline encore plus que la veille. Toutes ces insinuantes flatteries que la femme du monde, la plus bornée, sait apprécier à leur valeur, tombaient dans l'âme aride et flétrie de la pauvre recluse comme une pluie bienfaisante. Son orgueil, trop longtemps privé de satisfaction légitime, s'épanouissait au souffle dangereux de la séduction. Et quelle séduction déplorable! Celle d'un homme parfaitement froid, qui méprisait sa crédulité et qui voulait en faire un marchepied pour s'élever jusqu'à Laurence.